Blanc, blanc, comme la couleur. Ouais. Bonjour. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis universitaire. Donc, je suis professeur à l'Université de Bordeaux. Donc, à ce titre, j'ai une double casquette. J'enseigne déjà la programmation essentiellement à des masters, première année, deuxième année. Et de l'autre côté, je suis chercheur. Donc, j'effectue ma recherche au Labri, laboratoire bordelais de recherche en informatique, sur aussi la programmation et le test, tout ce qui est relatif au développement logiciel. Ok. Alors ça, non, je sais pas où c'est. Alors je peux le rapprocher de la bouche. Ouais, je l'ai rapproché de la bouche. Je peux le rapprocher de la bouche. Je peux parler plus fort. Oh, ok, on peut faire comme ça. Va saturer, ouais. Et ouais, il va saturer, etc. Ouais. Ça va comme ça là, c'est bon si je parle comme ça? Ok, nickel. Tu refais un montage après, c'est ça? Ouais. Ok, bah merci Benoît hein, pour l'invitation. On peut tutoyer aussi, hein, ça sera peut-être plus simple. Ouais, c'est une super question que tu me poses là et je vais t'avouer qu'il y a eu un énorme changement dans la communauté des chercheurs, notamment grâce à GitHub essentiellement, qui nous a permis à nous chercheurs d'avoir énormément d'informations. C'est ce qui nous manquait un tout petit peu. Énormément de projets bah, justement pour vérifier des théories. Ça, je pense que ça va te plaire. Alors, en fait, ce qui s'est passé avant GitHub, c'est que les chercheurs essayaient des théories. Ce qu'on fait en recherche en informatique, on a une théorie. Par exemple, la programmation orientée objet va avoir moins de bugs. Donc, on avait des théories et difficile de vérifier cette théorie. Donc, du coup, on avançait des arguments, on essayait de montrer que ça marchait dans certains cas, mais très, très, très difficile de prouver. La théorie du style, enfin, je sais pas, faire du test avant de développer, ça apporte des gains. Et puis GitHub est arrivé, et surtout il y a plein de chercheurs qui sont allés reprendre des méthodes utilisées dans les sciences sociales. Ou qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder plein, plein, plein de projets. Mais quand je te dis plein, au début c'était vraiment beaucoup, 10 000, 20 000, 100 000 projets. Et on va regarder comment se comportent ces projets par rapport à notre théorie. Alors, je vais te raconter un papier qui m'a vraiment plu, moi, en 2008. Ce papier est sorti en 2008. C'est un papier qui a été fait par des auteurs qui ont travaillé avec Microsoft. Si ma mémoire est bonne, les auteurs, c'est Nagapan et Zimmerman. Et en 2008, ils se sont intéressés à une propriété, une théorie qui était très intéressante sur la propriété du code. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on veut savoir si on prend un fichier. On veut savoir si ce fichier appartient à un développeur ou pas. Alors, comment on fait? Alors, ce qu'ils ont trouvé, et puis bah, c'est pas si bête finalement, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'on pouvait mesurer quantitativement la propriété d'un fichier. Il suffit de regarder si le développeur a écrit plus de X% des lignes. Donc maintenant, il y a des outils qui existent. À l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, il y a des outils comme Git Blame, où tu peux savoir quel est l'auteur qui a écrit la ligne. Donc je prends un fichier, et si j'ai écrit plus de 70% des lignes, par exemple, je peux considérer que je suis propriétaire du fichier. T'hésites pas à m'interrompre, hein, Benoît, hein, s'il y a des choses qui sont... Eh ben c'est exactement ce qu'ils ont voulu mesurer. Donc tu vois, tu as déjà l'intuition de ce papier. En fait, ils sont intéressés à savoir s'il valait mieux avoir un ou deux propriétaires forts, c'est-à-dire c'est eux qui ont fait quasiment toutes les lignes, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir au contraire des propriétaires faibles et donc plusieurs développeurs qui vont contribuer au fichier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, essentiellement, ils ont mesuré donc la propriété des fichiers et en parallèle, ils ont mesuré le nombre de bugs dans les fichiers. Donc ça, on peut le faire aussi avec des bons projets sous Git, hein, ceux qui sont bien documentés, là où on sait où sont les bugs. Et donc en gros, ils ont mesuré savoir s'il y avait plus de bugs dans les fichiers où il y avait peu de propriétaires. Ou l'inverse, plus de bugs dans les fichiers où, dans lesquels il y avait plein, 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 plein de propriétaires. Tu comprends l'idée, Benoît? Alors la conclusion, elle est double, et c'est ça qui était super intéressant avec ce papier. Donc ils ont regardé les projets industriels, et ils sont aperçus que sur les projets industriels, eh ben, il fallait avoir des propriétaires forts. L'intuition, après on la comprend, hein. Bon, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont mesuré plein de projets, chez Microsoft il y en avait beaucoup, et ils ont vu que quand il y avait peu de propriétaires, mais des propriétaires forts, ben, c'était des fichiers où il y avait moins de bugs. Alors ça c'est intéressant parce que ce qu'ils ont expliqué derrière, ils sont allés voir les développeurs, ils ont un peu posé la question, eh bien le développeur qui est propriétaire, il est un peu fier de son fichier et il n'a pas envie que les autres y viennent modifier. Donc dès qu'il y a une modification d'un autre, le développeur va regarder ça et il va contrôler la qualité des contributions qui sont apportées au fichier. Donc ça, c'était leur conclusion en 2008, si ma mémoire est bonne, où ils ont dit bah, il vaut mieux avoir des propriétaires forts. Alors, suite à ça, nous, on a refait l'étude dans le labo à Bordeaux sur les projets open source. Et là, c'était énorme parce qu'on a repris exactement leur méthodologie et on a trouvé quasiment le résultat inverse. Dans les projets open source, il vaut mieux avoir plusieurs contributeurs pour qu'il y ait moins de bugs. Tu vois comme c'est marrant en fait, quoi. Parce que là, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on a des méthodes et on découvre en fait, on découvre grâce à ces méthodes, on découvre si nos hypothèses de base, elles sont vraies ou fausses et on s'aperçoit que ben, il n'y a pas de vérité vraie, il y a des vérités contextuelles. Donc notamment cette notion de... Alors justement, tout ce qui est biais, ça... Alors voilà, tout ce qui est biais, ça fait maintenant, donc là, tu vois, là, alors, il y a une super conférence qui s'appelle MSR Mining Software Repository, qui montre comment on enlève ces biais. Et là-dessus, franchement, alors je ne vais pas bassiner avec la théorie, quoi, mais on en est quasiment au même niveau que les gens qui disent, moi, je ne crois pas au sondage. Alors, les sondages peuvent se tromper, hein, c'est vrai, mais ils se trompent maintenant à quelques pourcentages, quoi. Si tu veux, ils sont pas bien loin. Si tu regardes le sondage comme, en gros, qui vont être les trois premiers sur un sondage politique, il va pas beaucoup se tromper, le sondage. C'est pas du tout de l'aléatoire. Nous, sur les recherches statistiques là qu'on fait sur les projets, on est à peu près sur les mêmes taux de confiance, donc on peut mesurer le taux de confiance, c'est-à-dire qu'on est souvent au-delà de 95% de taux de confiance. Donc c'est pas sur les biais. Ouais. C'est qu'une question de contexte, essentiellement, parce que si tu regardes sur les projets industriels, les équipes sont plus réduites. Les équipes sont plus réduites, elles changent moins. On a fait un autre papier juste après avec Mathieu, qui était en thèse chez moi, et on a montré cette notion de turnover. Cette notion de turnover, elle est beaucoup plus forte sur les projets open source. Donc il y a d'autres chercheurs, Tom Mentz en Belgique par exemple, qui ont montré que la vivacité des communautés open source se mesure par rapport au flux des contributions. Est-ce qu'il y a de nouveaux contributeurs qui viennent, d'autres qui partent, etc. Et donc cette richesse dans les communautés open source, elle est vraiment basée sur un turnover, voilà, des gens qui vont arriver, ce qui n'est pas vrai dans les projets industriels, où la richesse vient plutôt, je dirais, de la stabilité de l'entreprise. Est-ce que c'est à peu près la même équipe qui gère le produit? Et ils savent exactement ce que ça fait. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas changer le produit, hein, que le produit ne va pas évoluer, hein, mais ouais, ça dépend vraiment du contexte. Alors, où est-ce qu'il peut venir? C'est une très bonne question. Maintenant, tout est accessible en ligne. Malheureusement, parfois, c'est un peu payant. Ce qu'il faut faire, il y a deux façons de faire. Premièrement, je vais faire un peu de pub à Google. Google Scholar est vraiment pas mal. Vous mettez les mots-clés, il vous sort les articles de recherche. C'est un moteur de recherche qui est fait que pour les chercheurs quasiment. Google Scholar. Une fois que vous trouvez un ou deux papiers qui vous intéressent, regardez les noms des auteurs. Prenez le nom, mettez-le encore une fois dans votre moteur de recherche favori et associé à cela DBLP. DBLP, en gros, c'est la bibliothèque de tous les articles de tous les chercheurs. Donc, si vous mettez l'auteur suivi de DBLP, vous aurez tous les articles qu'il a écrits. Bien souvent, s'il en a écrit un qui vous plaît, il y en a trois, quatre autres derrière qui vont vous plaire aussi. Voilà, c'est le début. Après, il faut rentrer en contact avec des chercheurs peut-être.